quoi ça sert de parler de la prison, à quoi ça sert de mettre en débat un objet qui nous semble lointain, tandis que probablement il est beaucoup plus proche de nous qu'il n'y paraît. Juste avant de démarrer cette table ronde, je vais vous faire une petite présentation. D'abord, cette table ronde est dans le cadre de l'exposition Dedans Dehors, qui est menée par un duo exceptionnel. Monsieur le maire, vous avez dans votre commune des gens qui sont vraiment engagés sur ce terrain-là. Je les en remercie. Je pense à Sandrine Lebrun de la Cité des Arts et Laureline Bûcher, coordinatrice au SPIP pour la pénitentiaire. Alors c'est très important de remercier ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que sans la connexion entre ces deux cultures, c'est-à-dire la culture artistique et la culture pénitentiaire, probablement que la mise en débat de la prison n'aurait pas lieu, et que c'est suite à leur invitation que je suis là, moi, ici, pour vous parler de la prison masquée. Donc vous avez évoqué la prison masquée, on a tous un masque ce soir, sauf moi, je m'en félicite, parce que je vais pouvoir vous parler tranquillement. Juste pour introduire cette table ronde-là, je vais vous proposer un petit parcours visuel, parce qu'on va parler de la prison, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais été en prison, donc l'idée, c'est... On m'a invité pour animer cette table ronde et on m'a dit, Arnaud, on fait une exposition sur la question du masque, la question de la création en prison. Mais bon, la création en prison, de quoi parle-t-on ? Donc je me suis mis en route pour Eton et Chambéry, et sur la route d'Eton et Chambéry, je me suis souvenu que quand on parlait de création à l'école, c'était toujours quelque chose de très positif. Donc on encourage les enfants, les jeunes à être très créatifs, et parfois, vous voyez, on a des choses comme ça qui traînent dans les rues qui sont inquiétantes. Donc j'ai commencé par visiter entre guillemets, hein, en fait, hein, le centre d'Eton, donc qui est au milieu de la montagne. Et puis j'ai fait le parcours du détenu pour me rendre compte à quel point la création était présente dans les murs. Ça, c'est une cellule pour arrivants. Donc quand on arrive en prison, on a la musique, le football, on a un ensemble d'éléments graphiques comme ça qui composent votre environnement. Et puis quand vous allez au vestiaire, c'est là où vous allez déposer des affaires personnelles que vous n'avez pas le droit d'emmener en prison. Et bien, vous avez quelques signes comme ça, un peu qui pourrait être une installation d'un artiste avec des vêtements qui traînent, des ânes et j'en passe et des meilleurs. Et puis vous continuez, et puis à Eton, vous avez une espèce de rue centrale, qui est une rue pensée par les architectes comme étant un lieu dans lequel les gens peuvent se retrouver, discuter, etc. Sauf qu'en prison, c'est un lieu de circulation, et quand on se déplace d'un point A à un point B, ben on ne s'arrête pas, on ne stationne pas, et surtout pas pour observer des œuvres d'art. Remarquez néanmoins au mur que vous avez déjà des créations qui sont présentes sur les murs. Alors la plupart de ces créations ont été faites il y a de nombreuses années, et parfois il arrive, on en reparlera tout à l'heure, que des œuvres, disons des créations, des peintures, soient accrochées au mur et que personne ne s'en rende compte et que personne ne les regarde, parce que finalement, quand on est surveillant ou surveillante, regarder ou s'approprier des œuvres d'art, ça nous pose... c'est pas le sujet. Ça va être notre sujet ce soir. Puis la prison, c'est aussi un lieu où chacun s'arrange, s'accommode de son environnement, et parfois on a des ambiances. Voilà une cellule à Eton avec un drap. Alors pourquoi les détenus mettent-ils des draps sur leurs fenêtres ? Parce que tout simplement, il n'y a pas de persiennes, et qu'on n'est jamais dans le noir complètement en prison, on est toujours un peu à la lumière du jour. Et puis sur l'action des présences artistiques, voilà un des bureaux des SPIP, où vous avez quelques décorations d'anciennes activités que vous pouvez voir qui décorent les bureaux. Donc on a des indices un peu partout, vous voyez, de ces présences-là, même si dans ce qui s'échange et ce qui se fabrique, vous avez cette espèce d'oxymore entre le rêve de la sortie, l'émancipation par l'art, et puis tout de suite derrière les concertinas qui vous rappellent quand même où on est. J'ai poursuivi la même démarche à la maison d'arrêt de Chambéry, donc une petite maison qui est une maison beaucoup plus ancienne. Alors là, vous avez une explosion des signes graphiques du sol au plafond, vous n'avez pas un centimètre carré dans cette prison qui n'est pas occupé par une création artistique. Enfin, vous avez le logo de la ville, vous avez, y compris dans les cours de promenade, même dans les cours de promenade où il y a des végétaux, des dessins de végétaux sur les murs, voilà. Et puis vous avez cette tradition, on peut dire que c'est une tradition maintenant, dans toutes les cours de promenade de France, vous avez des fresques. Alors à Chambéry, c'est particulier parce qu'on échappe un petit peu à cette espèce de caricature du fresque graphe. Voilà, on a Corto Maltese, vous avez un environnement qui est très beau, et puis un environnement qui n'exclut aucune possibilité, y compris de couper la tête des gens. Donc vous voyez, la violence des productions artistiques peuvent aussi être présente. Et puis dans les objets parfois qui permettent aux détenus, vous voyez, ça c'est une vue, quand on se retourne dans la cour de promenade, c'est une petite cour en camembert, hein, pour reprendre un peu la formule de l'architecture de l'époque. Bah, les détenus se protègent et fabriquent eux aussi des armes, mais on espère qu'ils ne se coupent pas la tête, ce serait quand même... embêtant. Et puis sur ces questions d'expression, ce qui est très marquant en prison, c'est cette nécessité de faire mémoire, d'inscrire des choses sur les murs. Et il y a toujours ces tentatives des personnes détenues de graver des choses, de prendre place en fait, avec beaucoup de parfois de vulgarité, mais aussi beaucoup d'élégance. Vous avez un tout petit dessin dans une cour de promenade de Chambéry. Et puis vous avez les ateliers de pratique artistique avec de nombreuses traces d'expression de ces personnes-là. Voilà, donc vous voyez qu'en prison, les présences artistiques sont très fortes. On va avoir une table ronde qui va se dérouler à peu près en deux temps. Un premier temps, on va réfléchir sur si l'art est là pour masquer nos relations dans la prison. On va voir si les présences artistiques fabriquent des illusions ou si, au contraire, elles peuvent permettre d'inventer d'autres relations dans et avec le dispositif pénitentiaire, ou si à l'inverse, c'est un objet périphérique. Puis on va avoir un deuxième temps où la question du masque va glisser de cette pratique artistique à la question d'un masque sanitaire et nous interroger si d'un masque à un autre, enfin, qu'est-ce que ça nous signale cette omniprésence du masque ? Petite image avec l'arrivée de la pandémie. Vous savez que l'arrivée de la pandémie a été quelque chose d'extrêmement violent, qui nous ont tous confinés et qui ont surtout révélé à quel point ces présences artistiques, ces intervenants extérieurs n'étaient pas utiles. Notre président de la République a fait un discours de guerre, hein, donc à la guerre, il y a les premières et les deuxièmes lignes. Ben, toute la pratique culturelle et artistique s'est retrouvée en deuxième ligne, confinée. Et puis on a vu apparaître à l'extérieur de la prison des éléments qui ne sont pas sans rappeler ce qu'on peut vivre dans la prison. Vous avez par exemple tout un tas de lignes au sol comme ça qui jalonnent le parcours des gens. Et puis on s'est habitué à ça. Cette publicité raconte, absolument personne ne vous en voudra d'être distant. Voilà, ça pose évidemment des centaines de questions. Et puis on se rend compte également que pendant le confinement, tout le monde s'est remis à la peinture et sont réapparues des petites images comme ça, assez étranges, d'un zèbre, alors je ne sais pas pourquoi. Et puis je me suis souvenu de cette photo que j'avais réalisée à l'aéroport de Lyon, où vous avez ce détenu qui allait se marier, non, cet homme qui allait se marier et qui, pour enterrer sa vie de garçon, avait un costume de bagnard. Sauf que, évidemment, le costume du bagnard, c'est quelque chose qui n'existe plus, hein, depuis un bon moment. Néanmoins, persiste dans la prison et dans nos histoires de l'interdit, la rayure. Et juste avant de poursuivre, je vais juste vous lire un petit texte de Michel Pastoureau, qui a écrit dans L'étoffe du diable. Donc Michel Pastoureau est un historien. Il nous raconte que du bouffon à l'insensé, de l'insensé au forcené, il n'y a pas de rupture, mais au contraire un parcours tragiquement cohérent qui a pu être celui des rayures. Les chaînons importants seraient ici l'enfermement des fous, à partir du XVIe siècle, puis celui de tous les acteurs de crimes et de délits dans la seconde moitié du XVIIe siècle, lorsque la peine privative de liberté se substitue progressivement au châtiment corporel. Géométriquement et métaphoriquement, le lien est très fort entre les rayures horizontales du vêtement pénitentiaire, les rayures verticales qui forment les barreaux de la prison, se croisant à angle droit, rayures et barreaux semblent constituer une trame, une grille, une cage même, qui isole encore plus le prisonnier du monde extérieur, plus qu'une marque. La rayure est aussi un obstacle, très souvent rouge et blanche, que nous rencontrons aujourd'hui sur les passages à niveau, aux postes frontières, et en tous les lieux où il faut absolument s'arrêter. Ce que nous dit ce texte-là, c'est à quel point la rayure est un élément marquant de l'interdit. Et il continue et il termine par dire « Le costume rayé que nos sociétés médiévales attribuent aux fous et aux insensés est une marque infamante, un signe d'exclusion, mais ça peut être aussi une barrière, une grille, voire un filtre qui les protégerait des mauvais esprits et des créatures du diable. Il n'est pas interdit de penser que la croyance dans les vertus protectrices de telles rayures vestimentaires a plus ou moins perduré jusqu'à l'époque contemporaine. Nos pyjamas ne sont-ils pas rayés pour nous protéger la nuit lorsque nous nous reposons fragiles et dérisoires de tous les mauvais rêves et des interventions du malin, etc. etc. Vous voyez, c'est une petite analogie sur la rayure qui me semblait intéressante de faire. Et puis, dans mes enquêtes, moi j'ai poursuivi le travail dans différents lieux, hein, dans les unités de soins, parce que c'était quand même un endroit également où on voit les présences artistiques. Vous voyez, petit tableau là-bas, on a toujours un petit tableau qui vient s'investir, qui vient attraper le mur, pardon. Et puis vous avez à Eton, quelque chose qui m'a beaucoup amusé, c'est cette espèce de fanion d'Eton, mais avec le petit masque mis sur le chamois. Hein. C'est un chamois, c'est ça, je ne me trompe pas. Voilà, donc pour vous dire à quel point la préoccupation du masque, et surtout à Eton, alors ça c'est quand même très très drôle, vous voyez, je vous parlais de la rayure, c'est pour ça que je vous parlais de la rayure, c'est que le détenu, y compris par les personnels, est un quelqu'un qui est rayé, derrière un barreau, donc si on ne porte pas son masque, eh bien, on risque d'être enfermé toute la journée, m'a-t-on dit.